rapidement. La dernière intervention formelle de la matinée sera effectuée par le docteur Fabrice Jolland, qui est praticien hospitalier universitaire dans la maison et qui développe un très beau programme de recherche en imagerie des conduites suicidaires soutenu par Émilie Ollier. Et il va aborder la question de l'imagerie cérébrale dans les troubles de la personnalité.
Merci Philippe. Alors, je ne parlerai pas du tout de ce qu'on fait, ou pas trop de ce qu'on fait dans le service. J'ai décidé de me mettre un petit peu en danger, de vous parler d'un sujet que je connais moins, mais qui me semble tout à fait passionnant. Alors on m'a proposé, je remercie tout d'abord les organisateurs du congrès de m'avoir à nouveau proposé de parler cette année, et de parler donc des troubles de la personnalité, de la neuroimagerie fonctionnelle, des troubles de la personnalité. C'est un sujet extrêmement vaste, tout à fait passionnant. Alors j'avais le choix ou faire quelque chose de très général et peut-être un peu superficiel et pas très intéressant, ou alors, et c'est le choix que j'ai fait, de me focaliser sur un thème ou un trouble particulier. Alors, ma compagne Anouka, qui est ici dans la salle pour la première fois, aime beaucoup les polars, les thrillers, voyez, elle regarde les documentaires à la télé où il y a des meurtres et tout. On partage pas du tout ce goût, hein, mais on en partage d'autres, heureusement. Et donc, pour lui faire plaisir, j'ai choisi de vous parler donc d'un thème très intéressant qui est la psychopathie. Alors, vous avez tous reconnu Hannibal Lecter, le psychiatre cannibale. Il était psychiatre, hein, cannibale. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de quelques données issues des neurosciences cliniques. Et je fais la transition un peu avec la présentation de Christophe André, qui montrait qu'effectivement, il est très difficile d'évaluer la personnalité, qu'elle est très influencée par beaucoup de choses. Et on va voir comment les neurosciences cliniques nous permettent de donner un nouvel éclairage sur ce trouble et sur la clinique de ce trouble, à défaut, pour le moment en tout cas, de nous proposer des pistes thérapeutiques. Alors, la psychopathie concernerait jusqu'à 1% de la population générale. Il y a beaucoup de psychopathes, évidemment, en prison. Ça représente entre 15 et 20% de la population carcérale. Alors, tout de suite, je vais faire une différence entre la psychopathie, alors qui n'est pas au sens développé tout à l'heure au début de l'intervention de M. Guelfi, mais je vais faire une différence entre la psychopathie et la personnalité antisociale, telle qu'elle est définie dans le DSM-4, qui met beaucoup l'accent sur les comportements antisociaux. Et je vais vous montrer à la diapositive suivante qu'il y a les comportements antisociaux, mais il y a autre chose qui est tout à fait important de noter et d'étudier. Donc il y a beaucoup de personnalités antisociales en prison, il y a un peu moins de psychopathes, c'est une population peut-être plus homogène, on verra ça dans un instant. Les dimensions de la psychopathie apparaissent précocement, alors au moins à l'adolescence, et dans certaines études, on peut montrer certaines dimensions encore plus précocement durant l'enfance, et pour ce qu'on en sait, de suivi un peu prolongé de ces personnes, ces dimensions restent stables. Ce qu'il est important de retenir aussi sur la psychopathie, c'est que ça apparaît comme un trouble très génétique. Vous avez peut-être en tête, on l'a déjà présenté plusieurs fois à ce congrès, ces magnifiques études néo-zélandaises, vous savez, de Dundee, de prospective d'une population comme ça, née il y a 36 ans, et qui avait montré une interaction entre certains gènes et puis les maltraitances dans l'enfance sur le risque de développer des personnalités antisociales, des comportements antisociaux, etc. Ils n'ont pas mesuré la psychopathie. Ils ont mesuré les comportements antisociaux, une espèce de, souvent de fourre-tout, vous voyez. Dans la psychopathie, l'influence génétique semble être majeure et l'effet de l'environnement précoce beaucoup moins important que dans les comportements antisociaux. On y reviendra dans un instant. Et quand on regarde le lien entre psychopathie et personnalité antisociale, on se rend compte qu'il y a des facteurs génétiques communs, mais l'effet de l'environnement est important dans la personnalité antisociale, il semble beaucoup moins important dans la psychopathie dont on va parler aujourd'hui. Et comme je l'ai dit il y a un instant, il ne semble pas, pour le moment, il n'y a pas de traitement connu. Donc c'est un trouble tout à fait passionnant sur le plan conceptuel, vous allez voir, mais qui est vraiment un vrai calvaire sur le plan de la prise en charge. Alors la psychopathie comporte deux dimensions cliniques. Donc une première dimension, ce que sont les comportements antisociaux, les maltraitances, les vols, le vandalisme, les agressions, avec deux types d'agressions classiquement décrites, qui sont les agressions réactives, impulsives qui font suite à des frustrations, d'accord ? Alors c'est un type d'agression qu'on rencontre dans plein de troubles psychiatriques, hein. On en trouve chez les bipolaires, chez les abuseurs de substances, etc. Mais il y a aussi un deuxième type d'agression qui est très évocateur de la psychopathie, ce sont les agressions instrumentales qui sont dirigées dans un but donné. Et puis la deuxième dimension de la psychopathie, c'est le déficit émotionnel et le déficit dans les relations interpersonnelles, une personnalité qui est marquée par un fort narcissisme et un égocentrisme, dont a parlé Christophe André tout à l'heure, une faible empathie pour les autres, peu d'attachement aux autres, une absence de culpabilité. Alors, si on décide d'aller explorer cette psychopathie au-delà de l'aspect clinique, avec des outils autres, on peut commencer par utiliser des batteries classiques de neuropsychologie, telles qu'on les utilise, par exemple, en neurologie. Et dans ces cas-là, on trouve habituellement qu'il n'y a pas d'atteinte ni du QI, ni des capacités visio-spatiales, ni de la mémoire, ni de l'attention, ni des capacités motrices. C'est-à-dire qu'il faut utiliser d'autres outils pour essayer de comprendre comment ça marche. Des outils, finalement, qui ont une dimension plus émotionnelle, plus affective. Et je vais vous présenter maintenant toute une série de diapositives qui explorent finalement tous ces dysfonctionnements que l'on retrouve dans la psychopathie. Je passerai ensuite à l'aspect imagerie cérébrale et donc au substrat neuroanatomique de ces déficits cognitifs. Alors, premier résultat très répliqué, c'est le défaut de réponse autonome, qui est un reflet de réponse du système autonome, nerveux autonome, qui est un reflet indirect de l'activation émotionnelle. J'ai choisi cette diapositive en particulier d'une étude qui a été publiée dans les archives en 1995, où on a comparé... Alors, je crois que ça ne marche pas... Ah, si, peut-être. Non. Si. Bon. Donc, vous voyez, en vert, on a comparé des adolescents de 15 ans. Alors, en vert, des adolescents qui étaient sains, et puis un groupe d'adolescents de 15 ans avec des comportements antisociaux. Et on les a suivis pendant 14 ans, et au bout de 14 ans, on a distingué parmi ces adolescents qui avaient des comportements antisociaux, ceux qui avaient continué à avoir une activité délictuelle, et puis ceux qui avaient arrêté d'avoir une activité criminelle à 29 ans. Et vous voyez, le diagramme est très parlant. Ceux qui avaient des comportements antisociaux à 15 ans, mais qui ont ensuite arrêté ce type de comportement, d'activité, de conduite, eh bien, avaient une réponse autonome mesurée par les variations de conducteurs cutanés, passons, qui était similaire au sujet sain. Par contre, ceux qui ont continué, hein, ceux qui ont récidivé, ceux qui n'ont pas arrêté leur comportement antisocial au-delà de l'adolescence, avaient une faible réactivité de conducteurs cutanés. Il y a plusieurs autres types de mesures dans cette étude qui vont toutes dans le même sens. Autrement dit, il y a une sous-population parmi les adolescents qui ont des comportements antisociaux qui présente une faible réactivité émotionnelle, très précoce, et qui est prédictive, finalement, de la poursuite de ces comportements. Deuxième résultat. On trouve chez les psychopathes des troubles du langage abstrait et émotionnel. Par exemple, dans la première étude citée, on a mesuré les potentiels évoqués, passons, lorsqu'on fait écouter des mots abstraits ou des mots concrets, et on montre que les réactions des patients psychopathes aux mots abstraits est différente de celle de sujets sains. C'est-à-dire que les patients psychopathes, manifestement, n'ont pas le même accès à l'abstraction verbale que nous pouvons avoir. Par ailleurs, ils montrent de grandes difficultés dans la reconnaissance des émotions sur le plan verbal, hein, et dans l'expression des émotions également sur le plan verbal. C'est-à-dire que lorsqu'ils écoutent, par exemple, un dialogue qui a une intonation de peur ou de colère ou de tristesse, eh bien, ils sont moins performants dans la capacité à reconnaître finalement les émotions qui les sous-tendent. Et eux-mêmes, quand on étudie la manière dont ils parlent, dont ils communique oralement, eh bien, on repère moins de différence entre les mots neutres qu'ils peuvent exprimer et les mots qui sont censés exprimer des émotions. Ça, c'est important. Ça veut dire que les psychopathes ne sont pas en relation de la même manière que nous avec leur monde, avec le monde. Ils ne communiquent pas et ils ne reçoivent pas le même type d'informations que nous. Là, on n'est pas du tout dans les comportements antisociaux, vous voyez, mais ils ne sont pas en relation avec le même monde que nous, on pourrait dire. Pourtant, ils sont dedans, qui va poser, évidemment, quelques soucis. Alors, les émotions, ça se transmet avec la voix, ça se transmet aussi avec le visage, évidemment, qui est un vecteur majeur de transmission d'une information émotionnelle. Vous voyez représenter ici une méta-analyse d'une vingtaine d'études qui ont étudié la capacité des psychopathes à reconnaître des émotions faciales, donc différents types d'émotions. Plus la barre est grande, plus il y a de différence avec le sujet sain. Et vous voyez, ça saute aux yeux, que les psychopathes ont de manière évidente une grande difficulté à reconnaître les visages qui expriment la peur. Alors, reconnaître des visages de peur, ce n'est pas si simple, hein, même en population générale, mais néanmoins, les patients psychopathes font encore moins bien que la population générale. Dans une moindre mesure, ils ont plus de difficultés à reconnaître les émotions de tristesse et les émotions de surprise. Donc, quand ils sont face à quelqu'un, là encore, une fois, ils ne voient pas la même chose de cette personne qu'une personne non psychopathe. Alors ça, c'est embêtant parce que, manifestement, être capable de reconnaître les émotions chez les autres, c'est absolument capital pour le développement d'une certaine stabilité émotionnelle, mais aussi pour le développement de capacités sociales tout à fait adaptées. Alors, également, la peur. Si vous tapez sur quelqu'un à grands coups de pied, quelqu'un qui est au sol et qui a peur, en général, ça fait s'arrêter un peu plus rapidement. Vous voyez. Donc, lorsqu'ils seront ensuite impliqués dans ces relations antisociales, violentes, etc., il n'y aura pas le signal de peur que peut exprimer l'autre en disant « c'est bon, ok ». Ça, ils seront incapables de le faire. Alors, autre déficit cognitif, un déficit de conditionnement aversif. Vous présentez, par exemple, un visage donné, et à la suite de ce visage, vous faites mal à la personne. Et puis, vous le répétez plusieurs fois. Au bout d'un certain temps, évidemment, vous apprenez que lorsque l'image va apparaître, derrière, il va y avoir une douleur, et donc vous allez exprimer, par exemple, de la peur. C'est ce que représente la courbe du milieu. Et puis, vous allez également exprimer une réponse du système nerveux autonome, d'accord ? En anticipation. Donc, vous avez appris qu'il y a une association entre un stimulus donné, ici un visage, et puis la douleur qui suit. C'est ce que, vous voyez, montre la courbe pleine. Au fur et à mesure de l'expérience, il y a une augmentation de la peur, et une augmentation de la réponse autonome, ce qui s'appelle SCR. Eh bien, ça n'est pas vrai chez les patients psychopathes, qui sont représentés avec des petits tirés. Vous voyez qu'il n'y a pas d'augmentation de la peur au cours du test. Ils n'apprennent pas cette association entre un stimulus et le résultat de ce stimulus qui suit, et ils ne développent pas de réponse cutanée à cela. Alors, dans cette étude, ce qui est rigolo, c'est qu'ils ont également comparé à des phobiques sociaux, qui sont finalement à l'autre extrémité sur le plan social. Autant je viens de vous dire que le psychopathe n'a peur de rien, autant le phobique social a peur de tout dès qu'il s'agit de relations sociales. Eh bien, le phobique social, vous voyez, a une réponse de peur extrêmement importante. Et alors, à la fin de l'étude, normalement, il y a une extinction de ce conditionnement. Vous voyez que le phobique social, lui, reste très élevé, il a toujours peur. Et quand vous faites la différence entre les deux conditions, une où il y a eu ce conditionnement aversif et l'autre où il n'y a pas eu, bien, vous voyez que la différence aussi chez les phobiques sociaux est très faible. Tout simplement parce qu'ils sont très élevés dans les deux conditions. D'accord ? Ils ont des réponses autonomes qui sont importantes dans toutes les conditions, même sans conditionnement affectif. Donc, évidemment, les courbes ne donnent pas le même type d'information. Donc, les psychopathes n'apprennent pas cette association entre « il se passe quelque chose » et puis « ce quelque chose va avoir une réponse » douloureuse. Ils ne savent pas le faire. Nouveau résultat. J'ai déjà parlé de la prise de décision, encore une fois, ici, largement dans le cadre par exemple, de la vulnérabilité suicidaire. C'est le cas également des sujets psychopathes. On a fait passer l'Iowa Gambling Task, le fameux Iowa Gambling Task, je vous rappelle, 4 paquets de cartes. Les sujets doivent gagner de l'argent. Quand ils choisissent un paquet de cartes, ils gagnent ou ils perdent de l'argent. Il faut qu'ils apprennent, et ce qu'on ne leur dit pas au départ, il faut qu'ils apprennent à s'éloigner des paquets à haut risque pour aller vers les paquets à bas risque. Les paquets à haut risque, c'est les paquets où on gagne beaucoup d'argent, qui sont très attractifs, mais quand on perd plus. Donc c'est désavantageux à long terme. Et puis il faut aller vers les paquets à faible risque, qui sont les paquets où au départ on gagne peu, qui ne sont pas très attractifs, mais quand on perd moins. Donc c'est avantageux à long terme. Vous voyez, c'est un test très malin. Et les sujets contrôle, vous voyez, au fur et à mesure du test, c'est la courbe du bas, s'éloignent des paquets à haut risque. C'est-à-dire qu'ils apprennent à éviter les paquets désavantageux. Et l'idée, c'est qu'ils apprennent parce qu'au fur et à mesure, ils développent des petits signaux émotionnels qui apparaissent juste avant de faire des choix désavantageux, qui leur disent « Oh, arrête-toi là, ne va pas sur ces paquets, c'est trop dangereux. » Et c'est des signaux qui sont supposés être inconscients. D'accord ? Donc on peut, à la fin de ce test, avoir compris comment ça marche, mais on peut très bien ne pas avoir compris explicitement comment ça marche et pourtant avoir fait les bons choix. Les psychopathes, tout comme les suicidants, je reviendrai un peu sur le parallèle à la fin, à l'avant-dernière diapo, les psychopathes, vous voyez, du début à la fin du test, continuent à choisir des paquets à haut risque. Ils ont envie de gagner de l'argent, comme les autres. D'accord ? Mais comme ils ne développent pas ces signaux qui devraient les éloigner des paquets à haut risque, vous avez compris que les paquets à haut risque, on gagne beaucoup, mais on perd plus. Donc ils sont désavantageux. Il ne faut pas y aller sur ces paquets à haut risque. Un peu comme la bourse. Il faudrait faire passer aux traders le gambling test, peut-être. On éviterait la situation qui vient. D'ailleurs, c'est un test économique. Hein. La prise de décision, au départ, c'est largement les économistes qui s'y sont penchés, hein, avant les psychologues et maintenant les psychiatres. Les psychopathes n'apprennent pas à s'éloigner des paquets au risque, restent sur les paquets au risque et donc finissent par perdre. D'accord ? Donc ils ont une prise de décision qui finit par être désavantageuse dans une situation ici, une situation économique. Et encore une fois, tout ça, c'est sous-tendu par des déficits émotionnels. Alors, l'ensemble de ces quelques résultats que j'ai présentés, il y en a d'autres, font penser qu'un certain nombre de structures particulières ne fonctionnent pas correctement chez le psychopathe. Je vais parler de deux régions. La première qui est l'amygdale en bas. Donc l'amygdale, c'est cette petite structure en forme d'amande qui se trouve enchâssée dans le cortex, dans la partie antérieure du cortex temporal, en avant de l'hippocampe. Et puis je parlerai du cortex préfrontal ventro-médian, VMPFC. Donc c'est la partie ventrale, vous voyez, du cortex préfrontal, et la partie intérieure, ici, c'est une coupe. Donc la partie interne, médiane et ventrale du cortex préfrontal, qui semble être deux des régions majeures impliquées dans ces anomalies cognitives dont je viens de parler. Alors, première région, l'amygdale, j'ai parlé de leur incapacité à traiter les mots abstraits, eh bien ça a été étudié. Ici, dans cette étude, on a comparé ce qui se passait dans le cerveau de psychopathes et de sujets sains lorsqu'ils écoutaient des mots abstraits ou des mots concrets. Et lorsqu'on fait la différence entre les deux, vous voyez très nettement qu'il y a une réponse forte chez les sujets contrôle et qu'il y a très peu de réponse chez les sujets psychopathes au niveau de l'amygdale. Donc l'amygdale, qui est connue hein, pour être impliquée dans le traitement de l'abstraction, eh bien, ne fonctionne pas correctement et sous-tend, finalement, le dysfonctionnement de cette amygdale sous-tend l'incapacité des sujets psychopathes à traiter l'information abstraite. Autre étude, publiée en 1995, le conditionnement aversif, le même que je vous ai montré il y a un instant, d'accord, on fait passer cette tâche à des sujets contrôle, vous avez c'est la colonne de gauche, à des sujets psychopathes, la colonne du milieu, et puis ensuite on fait la différence entre les deux. Vous voyez chez les sujets sains, à gauche, que cette tâche de conditionnement aversif va entraîner une activation forte. Alors là, je regarde vraiment de ne pas pouvoir. Enfin, vous voyez, peut-être. Enfin, ça s'éclaire partout, d'accord. Il y a plein de couleurs. Croyez-moi, ça active fortement chez le sujet sain les régions médianes et ventromédianes du cortex préfrontal et l'amygdale. Vous voyez sur la colonne du milieu que le même test chez les psychopathes active vraiment pas grand-chose. Et quand on fait la différence entre les deux, je vous ai mis la liste de quelques régions, eh bien, il y a des différences entre les sujets sains et les psychopathes au niveau du cingulum antérieur, qui est une partie très médiane du cortex préfrontal, l'insula antérieure, et puis surtout le préfrontal ventromédian et l'amygdale. Donc encore une fois, ces deux régions sous-tendent ce déficit de conditionnement aversif dont je vous parlais il y a un instant. Et là, vous avez une étude qui est très, très intéressante. Les psychologues sont des gens très malins. Enfin, ceux qui. Il y a une hésitation de trop, hein, tu vois. Donc, ils ont inventé un test de coopération sociale qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Alors, c'est malin de faire passer un dilemme du prisonnier à des psychopathes, mais c'est un test qui a été utilisé pas que chez les psychopathes. Ah, vous voyez, vous avez un joueur A, c'est celui qu'on teste, qui est dans le scanner, et un joueur B. Alors, on fait croire, en fait, qu'il y a un joueur B, mais c'est un ordinateur. Donc on lui dit, vous allez jouer contre quelqu'un de vrai. Et alors, schématiquement, vous avez le choix entre ou coopérer ou ne pas coopérer. Vous voyez, coop, c'est coopérer, défect, c'est ne pas coopérer. Alors si vous coopérez, vous voyez, avec le sujet B, que lui-même coopère, chacun gagne 2 dollars. Vous voyez, c'est la case en haut à gauche. Si le joueur A décide de ne pas coopérer et que le sujet B coopère, eh bien c'est le sujet B qui se fait avoir, puisqu'il va gagner 0, alors que le sujet A va gagner 3 dollars. Par contre, si le sujet A coopère et que le sujet B décide de ne pas coopérer, alors à ce moment-là, c'est l'inverse. C'est celui qui a coopéré qui ne gagne rien et celui qui n'a pas coopéré qui en gagne 3. Et puis, si les deux décident de ne pas coopérer, vous voyez, ils gagnent des petites sommes, 1 dollar chacun. Et voilà, ça se passe, chacun son tour, je coopère. Est-ce que je prends le risque de coopérer ? Vous voyez, si le joueur A décide de coopérer, mais que derrière le joueur B ne coopère pas, ben, il se retrouve avec 0. Donc, ce que vous décidez de faire, et le résultat de ce que vous décidez de faire, dépend de ce que l'autre fait. Donc, on est vraiment dans un lien de coopération sociale. Ce que je disais, c'est un test très malin. Alors, plusieurs résultats de cette étude. Premier résultat, en haut à droite, on trouve une corrélation, c'est le graphique en haut, une corrélation entre un test de psychopathie. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, très important, c'est que c'est une étude qui a été menée chez des étudiants. Ce n'est pas des psychopathes. C'est des étudiants d'une université américaine et on a mesuré leur niveau de psychopathie. Donc, pour rejoindre ce que disait M. Guelfi tout à l'heure, donc on n'est pas dans la catégorie psychopathe, on est dans une population censée être normale, mais qui sont plus ou moins psychopathes. Des gens très empathiques et d'autres beaucoup moins. Donc, on a mesuré ça avant. Et même chez ces étudiants, on montre une corrélation entre l'activité de l'amygdale et la psychopathie. Corrélation inverse. Plus ces étudiants sont psychopathes et moins l'amygdale s'active durant ce test de coopération sociale. Vous avez un autre résultat qui est en dessous, qui est un peu similaire, qui est que l'activation du cortex orbitofrontal, qui est une partie de cette région ventromédiane du cortex préfrontal, là aussi est inversement corrélée au niveau de psychopathie. Et le troisième résultat qui se trouve en bas, à gauche, c'est pour vous montrer qu'il existe une corrélation inverse entre le cortex orbitofrontal, donc ventromédian, et le cortex préfrontal plus dorsolatéral. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces sujets sont manifestement incapables d'utiliser le cortex ventromédian, parce qu'il ne marche pas bien. Néanmoins, ils vont quand même utiliser d'autres ressources qu'ils ont et qui fonctionnent bien, qui est le cortex dorsolatéral, c'est-à-dire pour utiliser une information cognitive. Ils ne guident pas leur choix sur le plan émotionnel parce qu'ils en sont incapables. L'amygdale ne fonctionne pas. Le cortex orbitofrontal ne fonctionne pas. Néanmoins, ils sont capables de se dire peut-être quand même qu'il faut coopérer parce qu'on m'a appris qu'il fallait coopérer. Alors, je ne le crois pas forcément. Mais comme on m'a dit que, je vais tenter le coup. Et vous voyez que moins le cortex orbitofrontal fonctionne, plus le cortex dorsolatéral... moins il fonctionne, plus le cortex dorsolatéral fonctionne pour évidemment prendre le relais. Alors ça, c'est bien. Le problème, c'est que ça peut marcher le temps d'un test, ça peut marcher quelquefois dans la vie, mais que finalement, le plus souvent, quand il faut prendre des décisions, évidemment, quand il faut prendre des décisions rapidement, comme les séminaristes tout à l'heure, ben peut-être que là, on fait moins appel à quelque chose de conscient, de raisonné, parce que ça prend beaucoup d'énergie, d'effort et de temps, et qu'on fait plus appel à ses émotions. Et quand on a des tendances psychopathiques, et évidemment, quand on est psychopathe, on prend très souvent la mauvaise décision. Alors, comment on pourrait finalement essayer de modéliser la psychopathie ? La psychopathie, c'est peut-être... Alors, c'est vraiment une modélisation très simplifiée, pour être clair. C'est un dysfonctionnement de l'amygdale et du cortex préfrontal ventromédian. Dysfonctionnement développemental et sous contrôle génétique. L'amygdale, ça sert à faire cette association entre un stimulus et une réponse. Réponse émotionnelle, comme la peur tout à l'heure. D'accord ? Et puis cette information, elle est transmise au cortex préfrontal ventromédian qui va lui donner une valeur. Il va dire, est-ce que c'est important finalement cette association ? Et s'il lui donne la bonne valeur, ça va permettre de diriger correctement nos prises de décision, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient morales. Parce que la moralité, c'est quoi ? C'est finalement prendre la bonne décision. Est-ce qu'il faut taper sur son voisin quand il fait du bruit ou pas ? Si vous avez appris que c'est pas bien, c'est bien enchâssé en vous comme ça, cette association est bien forte sur le plan émotionnel, vous le faites pas, même si vous y pensez. Donc la prise de décision, finalement, c'est apprendre à faire quoi ? À donner une valeur de risque à une option. Vous avez plusieurs options, comme dans l'Iowa Gambling Test tout à l'heure. Il faut que vous appreniez au cours du test, vous partez de rien, vous ne connaissez pas le test, vous appreniez à donner une valeur, oula, ça c'est risqué, valeur de risque. Quand c'est trop risqué, si vous fonctionnez normalement, vous vous éloignez de ces paquets, parce qu'ils deviennent désavantageux, et vous allez vers les paquets où il y a moins cette valeur de risque. Dans la moralité, c'est finalement quoi ? C'est apprendre à donner une valeur de bien ou de mal à un acte. Alors bien ou mal, c'est évidemment très largement déterminé culturellement, entendons-nous bien. Mais la capacité à donner... Oui, c'est mal d'aller tuer son voisin. Mais il y a certaines sociétés où c'est bien d'aller tuer son voisin s'il a couché avec sa sœur. Vous voyez, ça dépend du contexte. Donc ce n'est pas l'acte qui fait le bien ou le mal, ça va être finalement ce que la culture autorise. Mais la capacité à donner cette valeur bien ou mal, quel qu'en décide la culture, c'est déterminé par nos circuits cérébraux. Et donc si on apprend correctement à donner une valeur de bien ou de mal à un acte, on va éviter les actes à valeur négative, c'est-à-dire ceux qui vont provoquer la souffrance, la douleur, la peur. Et puis on va favoriser les actes qui font plaisir. Le psychopathe est incapable d'associer un choix avec une punition, comme dans l'Iowa Gambling Task, et sa représentation à long terme. Donc ces choix vont être largement guidés, non pas par cette association choix-punition, mais par les récompenses immédiates. Donc il vit dans l'immédiat, il est guidé uniquement par les récompenses, quelles que soient les conséquences. C'est-à-dire qu'il il va très régulièrement dans le mur. C'est-à-dire que la première victime du psychopathe, c'est lui-même. Il va en faire d'autres, mais la première victime du psychopathe, c'est lui-même. Et sur le plan moral, cette altération de la reconnaissance de la peur, de la souffrance chez les autres, ce défaut de conditionnement aversif va l'amener, le conduire à être incapable de reconnaître finalement la valeur des autres, leur propre souffrance. C'est-à-dire que pour comprendre la souffrance des autres, la peur des autres, il faut soi-même pouvoir la ressentir. C'est vrai d'ailleurs dans notre cabinet, si on est incapable de ressentir la souffrance de l'autre, il ne faut pas trop la ressentir, sinon on n'est plus très bon docteur, mais il faut la ressentir un petit peu, c'est à la base de l'empathie, tout ça. Et vous voyez que ça a quand même un rapport avec la prise de décision et c'est un rapport avec les circuits dont on vient de parler de manière... Et alors le psychopathe est évidemment incapable de reconnaître les conséquences négatives pour les autres de ses propres actes. Un mot avant de conclure... sur le lien avec la vulnérabilité suicidaire. On vient de finir toute une série de travaux où on montre que les personnes qui ont une vulnérabilité suicidaire vont répondre très fortement à des signaux de rejet, de désapprobation, et répondent très faiblement lorsqu'il s'agit de prendre des décisions à l'Iowa Gambling Task. Le cortex orbitofrontal ne s'active pas devant les paquets à haut risque. Autrement dit, ils ont un curseur qui est bloqué soit de manière excessive pour certains signaux sociaux, soit de manière trop faible dès qu'il s'agit d'évaluer la prise de décision économique, le risque, etc. Et on a fait l'hypothèse que finalement la vulnérabilité suicidaire, c'était l'incapacité à donner une valeur adéquate aux situations sociales, aux choix, etc. Vous voyez que le psychopathe, c'est quelque chose un petit peu différent, mais on est aussi dans cette incapacité à donner une valeur adéquate aux choses en pratique. Il donne beaucoup de valeur aux récompenses et très peu aux punitions. Vous pouvez leur taper sur la tête autant de fois que vous voulez en prison. Lorsqu'ils sortiront, ils n'auront pas plus appris le conditionnement aversif et le fait qu'un acte est associé à une punition, etc. Donc en conclusion, la psychopathie est une maladie développementale. Je n'ai pas parlé de tous les travaux autour des lésions cérébrales, de Damasio, de Finas Gage, etc. Il y a un lien, mais pas complètement. La psychopathie, c'est une maladie qui touche plusieurs régions cérébrales, qui est une pathologie développementale, sévère, fortement irritable, qui va entraîner des déficits émotionnels qui compromettent les comportements sociaux et la prise de décision. C'est sous-tendu par l'amygdale et le cortex préfrontal ventromédian. On ne sait pas le soigner. Peut-être que tous ces travaux, je vous en ai présenté quelques-uns, mais il y en a beaucoup, il y a un gros intérêt pour la psychopathie dans la littérature internationale. La question, c'est finalement comment on pourrait arriver à redonner des émotions aux psychopathes. Est-ce qu'en donnant des émotions, on peut améliorer leurs comportements sociaux ? On peut améliorer leur prise de décision. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup Fabrice et de nouveau félicitations pour nous apporter un message clair sur les dysfonctionnements cérébraux dans ces conditions pathologiques qui auront sûrement beaucoup d'importance dans l'avenir pour un domaine qui est celui de l'expertise psychiatrique notamment et qui est un sujet important de recherche actuellement. Et puis, merci de nous avoir montré les bases neurales de l'économie qui confirment ce que disait Roosevelt en 1929 et qui avait observé que les banquiers étaient des psychopathes.